Les éditions Décembre présentent
Le psautier de Mayence. De Jean Rey. Asseyez-vous. Vous prendrez du whisky?
Ça ne se refuse pas.
Garçon, une bouteille de scotch.
Ballister méprisait un peu la taverne du Cœur Joyeux. C'était plus une auberge de bateliers que de marins. Mais c'est là que l'attendait le maître d'école pour débattre une affaire.
Je suis heureux que vous acceptiez ma proposition, monsieur Ballister. Voici les plans du schooner.
C'est presque un yacht. Par gros temps, il doit pouvoir marcher au plus près.
Oui, on a encore le moteur auxiliaire.
Je ne crois pas que nous l'utiliserons, monsieur. J'ai toujours préféré la navigation à voile par sport et par amour de la mer. Ce bateau a un gréement admirable. Ses 60 tonneaux tiendront mieux la mer qu'un paquebot.
J'en suis ravi. À votre santé.
À la vôtre. Ainsi, le bateau s'appellera le...
Sautier de Mayence.
C'est assez original. Inhabituel, en tout cas.
Disons que je l'ai appelé ainsi par gratitude. Oui, mon grand-oncle mourut il y a un an et me laissa en héritage une malle bourrée de vieux livres. Attendez. Je l'ai remué sans grande joie... quand un bouquin attira mon attention. C'était un incunable.
Comment dites-vous?
Cela se dit d'un livre qui date des premiers temps de l'imprimerie. Et quelle ne fut pas ma stupeur en croyant reconnaître la marque quasi héraldique de Fust et Schaeffer. Mais ces noms ne vous disent pas grand-chose, sans doute. Ce furent les associés de Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie. Et le livre que j'avais entre les mains n'était autre qu'un exemplaire rarissime et splendide du fameux Psautier de Mayence, imprimé vers la fin du XVe siècle. Mais ce qui vous fera le plus d'impression, Ballister, c'est qu'un tel bouquin vaut une fortune.
Ah bon?
Oui. Un beau paquet de livres sterling, assez important pour acquérir ce bateau et pour payer largement l'équipage de 6 hommes pour la croisière que je désire faire. Comprenez-vous pourquoi je veux donner un nom si peu maritime à notre navire?
C'est très beau de votre part, monsieur.
Revenons à notre affaire. Voici la carte. Vous partirez de Glasgow et vous conduirez le bateau par le North Minch jusqu'au Cap Rat.
Diable, ce sont de damnés parages.
Je vous ai choisi Ballister parce que vous les connaissez.
C'est bien vrai. J'ai même failli laisser ma peau entre le Chicken et le Trumpan Head.
Il y a, au sud du Rat, une petite baie bien abritée que seuls quelques hardis compagnons connaissent, sous un nom qui ne figure pas sur les cartes. Le Big Toe.
Vous connaissez cela? Voilà quelque chose qui vous vaudrait une grande considération parmi les gens de la douane. Et probablement des coups de couteau de certains garçons de la côte.
Je rejoindrai le bord au Big Toe.
Et de là?
Vous irez... ici.
Un vilain coin. Un véritable désert d'eau semé de pitons rocheux. Nous ne verrons pas beaucoup de fumée à l'horizon.
C'est ce qui m'arrange.
Vos affaires ne me regardent pas. Du moment que vous payez comme vous l'avez dit...
Je crois que vous vous trompez quant à mes affaires, Ballister. Elles ont un caractère... plutôt scientifique. Mais peu importe du reste. Je paye, comme je l'ai dit, très bien. Vous reprendrez du whisky.
C'est mon point faible. Et je dois bien reconnaître que ce bistrot de barboteur d'eau douce sert des boissons assez confortables.
Bon, et maintenant voyons la composition de l'équipage.
Il y a Turnip. Ah, c'est un bon garçon et un bon marin. Seulement, il a une affaire de contrebande d'alcool dans son passé tout proche.
Cela est-il un inconvénient ?
Pas le moins du monde.
C'est parfait. Vous l'aurez pour un bon prix. Surtout si vous embarquez un peu de rhum. Oh, du rhum frais, n'est pas regardant sur la qualité, pourvu que la bonne mesure y soit.
Il y a aussi le flamand Stevens. Ne part jamais. Mais il lui est aussi aisé de briser une chaîne d'amarrage qu'à vous de mordre un morceau de tuyau de pipe d'Hollande.
Il a sans doute lui aussi une ridicule histoire de contrebande, également dans son passé tout proche.
Pas exactement de contrebande, mais l'équivalent n'est pas improbable.
Alors va pour... comment encore ?
Stevens.
Stevens. Il est cher ?
Oh, pas du tout. Il se rattrape sur le lard salé et le biscuit. Et la confiture d'orange, si vous en achetez pour les provisions du bord.
Une demi-tonne, si vous voulez.
Il sera votre esclave. Je pourrais vous proposer Walker. Mais il est très laid.
Vous êtes un humoriste, Pallister.
C'est que sa figure, où il manque une moitié de nez, un peu de menton et une oreille entière, n'est pas amusante à regarder pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude du musée Tussaud.
Et avec ça, cher ami ?
Deux excellents garçons. Jelwyn et Friar Tuck.
Friar Tuck, c'est un personnage de Walter Scott, non ?
Ah, je ne voulais pas le dire, mais puisque vous le remarquez... Et donc, Friar Tuck, je ne lui connais que ce nom. Il est un peu cuisinier, et comme dirait Molière, un maître Jacques de la mer.
C'est charmant. Monsieur Pallister, je ne puis assez me féliciter d'avoir rencontré un homme intelligent et cultivé comme vous.
Jelwyn et Friar Tuck ne se séparent jamais. Qui voit l'un, voit l'autre. Et qui engage l'un, engage son compagnon en même temps. Ce sont des êtres complémentaires. Et des gens un peu mystérieux. On dit que Jelwyn a du sang de roi dans les veines et que Friar Tuck serait un valet dévoué qui le suit dans le malheur.
Et le prix est à l'avenant de ce mystère, sans doute.
Précisément.
Un pauvre diable venait d'entrer dans le bar... poussé aux épaules par la rafale nocturne. C'était une sorte de pitre efflanqué, noyé comme un chien par l'averse, lavé et déteint par toutes les misères de la mer et des ports. Il demanda un verre de gin et y porta les lèvres avec gourmandise. Soudain... Pallister, surpris, vit le hooligan qui s'était dressé et fixait avec une terreur indicible le maître d'école, puis d'un bond qui regagna la bourrasque du dehors sans ramasser la monnaie de la demi-couronne qu'il avait déposée sur le comptoir. Le maître d'école ne remarqua pas l'incident, du moins il n'en eut pas l'air. Mais Pallister se demandait quelle raison formidable avait poussé ce pauvre parmi les pauvres à perdre son argent, à arroser le sol de son gin et à s'enfuir dans la rue glaciale alors que le bar était capitonné d'exquises chaleurs.
La barre à 180 degrés !
180 degrés, capitaine !
Walker ! Hissez le pop ! Nous allons serrer au plus près !
Compris, capitaine !
Par les premiers jours d'un printemps extrêmement doux, le Nordsminch s'ouvrit devant le psautier de Mayence comme pour une fraternelle accolade. Quelques courants rageurs déferlaient encore sournoisement, mais les marins les détectaient à leur dos vert, onduleux comme des tronçons de reptiles mutilés. Une de ces curieuses brises du sud-est qui ne souffle que dans ce coin leur apporta de 200 milles de là la senteur des premières floraisons et des lilas précoces d'Irlande, et aidèrent le moteur auxiliaire à les pousser vers le Big Joe. Là, le mode et la chanson changèrent. Des tourbillons se creusaient dans l'eau en sifflant comme des sirènes à vapeur. Ils les évitèrent à grand-peine. Un dérélict vert comme un banc de mousse, tiré d'un grand fond de l'Atlantique, jaillit presque sous les barbes du Beaupré et s'en alla éclater en un sombre soleil de pourriture contre une muraille de roche. 20 fois, le psautier de Mayence risqua d'être dématé comme en un seul trait de rasoir géant. Heureusement, c'était un fameux voilier. Une accalmie de quelques heures leur permit de faire tourner le moteur auxiliaire à toute allure et de franchir la minuscule passe du Big Two au moment où une nouvelle colère de la marée accourait dans leur sillage en une poussière verte d'eau flagellée.
Nous sommes ici en onde peu hospitalière.
Si les garçons de la côte nous y trouvent, nous aurons à fournir des explications. Et ils tâcheront de nous faire filer. Alors il sera bon de nous munir d'armes convenables.
En effet, les garçons de la côte firent leur apparition. Mais ce fut pour leur malheur. Un malheur troublant, autant qu'incompréhensible. Depuis 8 jours, le navire était à l'ancre dans une petite baie, plus calme qu'une mare à canards. La vie était agréable à tout l'équipage. L'approvisionnement du bateau en comestibles et boissons était digne d'un yacht de renom. En 12 brasses de nage, ou en 7 coups d'aviron de la yole, on abordait une minuscule plage de sable rouge où s'égouttait un ruisselet d'eau douce, glacé comme un vrai Schweppes. Turnip prenait à la ligne de petits flétans. Stevens partait dans la Hinterland, constituée par les landes sauvages et désertes. Parfois, suivant les caprices du vent, on entendait les coups de fouet de son fusil. Il rapportait des perdrix, des coqs de bruyère, ou encore un lièvre puissamment pâtu, et toujours de ces délicieux lapins des Brandes à la chair parfumée.
Mon Dieu, Tuck, n'y a que toi pour mijoter un coq de bruyère.
J'ai pas de mérite, c'est mon plat préféré.
Il y a longtemps que j'ai plus des vacances pareilles.
On est peut-être engagé par un philanthrope.
Capitaine, vous ne trouvez pas un peu curieux que ce maître d'école, comme vous l'appelez, ne se montre pas?
Oh, peu nous importe finalement, Jalouin. Il nous a payé 6 semaines en bons billets d'une livre et de 10 schlings, non?
En tout cas, moi, je ne disparaîtrai qu'avec la dernière goutte de rhum du bord.
Un matin, les choses se gâtaient.
Hé, les gars! On nous tire dessus! Aux armes, vite!
Là-bas, la fissure dans la roche. Ça part de là.
Diable, ils sont bien protégés. Ils ne les auront pas facilement.
Les marins frissonnèrent d'horreur. Un homme venait de s'aplatir sur la plage, tombant d'une hauteur de 300 pieds de la falaise à pic. Son corps brisé s'enfonça presque entièrement dans le sable. Ballister reconnut le rude costume de cuir des naufrageurs du Wrath. Ses yeux se détachaient à peine de la masse immobile et flétrie quand Stevens lui toucha l'épaule.
Hé, y en a un second qui vient.
Une forme déhanchée et ridicule fondait du haut du ciel vers le sol.
Là, encore un.
Cette fois, une patibulaire figure frissonna quelques secondes à gros bouillons pourpres face au soleil.
Regardez, là.
Mais contre quoi se débat-il, Seigneur?
Un homme, en effet, se débattait contre quelque chose d'invisible, fit un geste désespéré et vola en l'air comme au sortir d'une catapulte. Son corps s'écrasait déjà, que son cri planait encore, descendant vers le schooner en une lente vrille de désespoir.
C'est égal, ils en voulaient à notre peau. Mais pourtant, je voudrais venger ces pauvres diables.
Frère Tuck, viens ici!
Tuck vaut un chien de chasse, capitaine, ou plutôt il en vaut 10, il sent le gibier de très loin. C'est une sorte de phénomène.
Qu'est-ce qu'il y a, monsieur?
Mon ami, dis-nous ce que tu penses de tout ça.
Friar Tuck trahissait un étonnement profond. Il marcha vers la lisse pour mieux scruter de son regard aigu les cadavres aplatis. Une teinte terreuse se glissa sur sa face.
C'est quelque chose que je ne comprends pas. Il y a du vilain là-dessous. Il y a... Tirez sur la brèche, monseigneur. Là, vite.
Tuck, je vous ai déjà dit de ne plus m'appeler comme ça.
Trop tard. C'est passé.
Mais quoi?
Ben, la chose qui guettait dans la brèche.
Mais qu'est-ce que c'était?
Je ne sais pas. Et puis, c'est passé.
Là, une ombre.
Cette fois-ci, je ne la rate pas.
Mais faites donc attention, que diable. C'est le maître d'école.
Dès son arrivée à bord, le passager se cloîtra dans sa cabine, passant le temps à compulser les livres. Une ou deux fois par jour, il montait sur le pont, se faisait apporter le sextant et, minutieusement, faisait une observation.
Nous marchons au nord-ouest, Jalouin. C'est le cap sur l'Islande.
Pas tout à fait. Plutôt vers le Groenland. Regardez. J'ai fait le calcul ici.
Bah, l'un ou l'autre.
Et avec la même insouciance, Jellywin l'avait approuvé. Ils avaient quitté le Big Stoop par beau temps, laissant derrière eux les monts de Ross se chauffer les bosses au soleil levant. Ils croisèrent ce jour-là un bateau des Hébrides. Et vers le soir, un Dundee toute voile dehors se profila sur l'horizon. Le lendemain, la mer avait grossi. Ils virent à tribord sous le vent un vapeur danois luttant contre les vagues. Il s'entourait d'une telle fumée qu'ils ne purent lire son nom. Ce fut le dernier bateau qui fut aperçu. À l'aube du troisième jour, ils virent souffler au loin une orque et sa base grave vibra jusqu'à eux. Ce fut là la dernière manifestation de la vie autour de leur bord. Le maître d'école invitait Ballister le soir à venir prendre un verre chez lui. Lui-même ne buvait pas, mais c'était un homme convenable et bien élevé, car jamais il ne laissait le verre du capitaine vide. Et pendant que celui-ci buvait, il tenait son regard fixé sur ses livres. La vie devenait monotone. Pourtant, l'équipage semblait soucieux, peut-être à cause d'un intermède un peu brusque qui arrivait un soir. Ils furent tous, pour ainsi dire en même temps, pris de nausées violentes, et Turnip cria qu'ils étaient empoisonnés. Ballister lui ordonna sévèrement de se taire. Ce malaise passa vite, une saute de vent les obligea à une rude manœuvre qui leur fit tout oublier. L'aube se leva sur le huitième jour de voyage. Ballister trouva les figures soucieuses et fermées. Il connaissait ces têtes-là. Sur mer, elles ne disent rien qui vaille.
Monsieur Ballister, nous voulons vous parler.
Je vous écoute.
Nous voulons surtout parler à l'ami, au grand camarade de bourlingue que vous êtes pour chacun de nous, plutôt qu'au capitaine.
Voilà un beau préambule.
C'est bien parce que vous êtes un ami qu'on y met des formes.
Doucement, Walker. Bon, allez-y.
Eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas autour de nous. Et le pire, c'est que personne de nous ne peut l'expliquer.
C'est vrai, Jellywin. Je le sens aussi.
Ah, capitaine, on savait qu'on pouvait compter sur vous.
Regardez la mer, monsieur Ballister.
Je sais. Je l'ai vu comme vous.
Eh oui. Depuis 2 jours, Ballister voyait. La mer avait pris un aspect insolite, que malgré ses 20 ans de navigation, il ne se rappelait pas avoir vu sous aucune latitude. Des stries étrangement colorées la traversaient. Des bouillonnements soudains et bruyants l'agitaient parfois. Des bruits inconnus comme des rires partaient tout à coup d'une houle brusquement accourue et faisaient se retourner les hommes avec des mouvements d'effroi.
Plus aucun oiseau ne nous suit. Hier soir, un troupeau de rats qui nichait dans la soute aux vivres s'est rué sur le pont, puis en bloc s'est jeté à l'eau. Je n'ai jamais vu une chose pareille.
Et jamais.
Plus d'une fois, j'ai fait route de ces côtés-ci vers la même époque. Ça devrait être noir de macreuse et des bandes de marsouins devraient nous suivre du matin au soir. Et où sont-ils?
Avez-vous regardé le ciel hier soir, monsieur Ballister?
Non. Non, je n'ai rien vu.
Il rougit un peu. Il avait bu énormément dans la compagnie silencieuse du maître d'école et, terrassé par une puissante ivresse qui lui tenaillait encore les tempes d'un restant de migraine, il n'était pas remonté sur le pont.
Où ce diable d'homme nous mène-t-il?
Diable, oui.
Jellywin, je suis le patron ici, c'est vrai. Mais je n'ai aucune honte à avouer devant tous que vous êtes le plus intelligent du bord. Et je sais aussi que vous êtes un marin peu ordinaire.
Soit.
Je pense que vous en savez plus que nous sur ce qui se passe.
Non, mais Friar Tuck est un phénomène assez curieux. Comme je vous l'ai déjà dit, il pressent certaines choses, sans pouvoir les expliquer. Il a, pourrait-on dire, un sens de plus que nous, le sens du danger. Tuck, parle.
Je sais peu, presque rien, si ce n'est que quelque chose est autour de nous. Pire que tout. Pire que la mort. Le maître d'école. n'est pas étranger à cela. Ce dôme me fait l'effet de... d'un mur infranchissable derrière lequel doit se passer quelque chose d'immense et de terrible.
Kelwin, il faut lui parler. Je n'en ai pas le courage. Faites-le pour moi.
J'y vais.
Messieurs, il n'y est pas. Cherchez partout le bateau. Il n'y a pas de cachette qui puisse retenir longtemps un homme.
Ils cherchèrent, puis, un à un, remontèrent sur le pont, se regardant mutuellement avec appréhension. Le maître d'école avait disparu. À la nuit tombante, Jellewin fit signe à Ballister de venir sur le deck et lui montra la flèche du grand mât. Ballister se sentit tomber à genoux. Un ciel étrange se voûtait sur la mer grondante. Des astres inconnus, aux groupements géométriques nouveaux, brillaient faiblement dans un abîme sidéral d'un noir effrayant.
Jésus-Dieu! Mais où sommes-nous?
Des nuages envahissent le ciel, cela vaut mieux. Les hommes auraient pu s'en apercevoir et devenir fous. Où nous sommes? Comment le saurais-je? Faisons machine arrière, monsieur Ballister. Bien que cela soit inutile, à mon avis.
Mais depuis 2 jours, la boussole est inerte.
Je sais.
Mais où peut-on bien être? Oh, que nous arrive-t-il, Seigneur?
Soyez calme, monsieur Ballister, vous êtes le capitaine. Ne l'oubliez pas. Je ne sais pas où nous sommes. Je pourrais émettre une hypothèse. Mais c'est un mot savant qui couvre une imagination parfois fort audacieuse.
Qu'importe. Je préfère entendre des histoires de sorciers et de diables que ce démoralisant je ne sais pas.
Nous sommes probablement sur un autre plan de l'existence. Vous avez des connaissances en mathématiques. Elles vous aideront à comprendre. Le monde tridimensionnel, qui est le nôtre, est probablement perdu pour nous. Et je définirai celui-ci par le monde de la énième dimension, ce qui est très vague. En effet, nous serions, par la vertu d'une inconcevable magie ou d'une monstrueuse science, transportés sur Mars ou sur Jupiter ou même sur Aldébaran, que cela ne nous empêcherait pas de voir dans certaines régions du ciel s'allumer des constellations que nous voyons de la Terre.
Mais le soleil, nous l'avons quand même vu!
Une similitude, une coïncidence de l'infini, une sorte d'astre équivalent, peut-être. D'ailleurs, ce ne sont là que des suppositions, des mots, des choses creuses. Et puisqu'il nous sera, je crois, permis de mourir dans ce monde étrange aussi bien que dans le nôtre, j'estime que nous pouvons garder notre calme.
Mourir? Comme vous y allez, je défendrai ma peau!
Contre qui? Parler de choses pires que la mort.
Que voulez-vous dire par la énième dimension?
Pour l'amour du ciel, ne donnez donc pas à ma pensée une importance si réelle. Rien ne prouve que la création soit possible en dehors de nos 3 vulgaires dimensions. Aussi bien que nous ne découvrons pas des êtres idéalement plats, relevant du monde des surfaces ou linéaires à dimension unique. Aussi bien, nous ne sommes pas discernables aux entités, s'il y en a, qui possèdent plus de dimensions que nous. Je n'ai ni le cœur ni l'esprit en ce moment, monsieur Ballister, à vous faire un cours d'hypergéométrie. Mais ce qui est certain pour moi, c'est qu'un espace différent du nôtre existe. Celui que nos rêves, par exemple, nous font discerner, et qui présente sur un plan unique le passé, le présent. Et peut-être l'avenir, le monde même des atomes et des électrons, avec des astres tourbillonnants, des espaces relatifs et immenses, une vie vertigineuse et mystérieuse. Quel fut le but de cet énigmatique maître d'école en nous menant dans ces parages du diable ? Comment ? pourquoi disparut-il?
Jelwyn, comment marchons-nous?
Nous faisons route tribord à mur. La brise me semble très égale.
Mettrons-nous à la cape?
Pourquoi? Faisons plutôt du chemin. Prenons quelques riz, en prévision d'un grain que rien n'annonce du reste.
Walker prendra la barre pour commencer. Il n'aura qu'à regarder s'il ne voit pas blanchir des brisants. Si nous heurtons un piton noyé trop bas, nous descendrons d'un cran dans l'eau.
Ce serait peut-être bien la meilleure solution pour nous tous.
Il ne pensait pas si bien dire.
Si le danger repéré affermit l'autorité d'un chef, l'inconnu le rapproche du niveau de ses hommes. Ce soir-là, le poste fut déserté et tout le monde s'installa dans le salon exigu qui servait de cabine à Ballister. Jelwyn leur fit présent, hors de sa propre réserve, de deux damjans contenant du rhum fameux qui servit à faire un punch monstre. Turnip devint d'une humeur charmante et commença une interminable histoire de deux chats, d'une jeune dame et d'une villa à Ipswich, histoire où lui, Turnip, avait joué un rôle avantageux. Stevens s'était confectionné des sandwichs fantastiques avec du biscuit de mer et du corned beef. Une lourde fumée du Navy Cut tassait un brouillard dense autour de la lampe à pétrole suspendue immobile au cardan. L'atmosphère était agréable et familière. Le punch aidant, Ballister allait bientôt sourire au compte bleu que Jelwyn lui avait servi auparavant.
Bon, ben, puisqu'il le faut, je vais prendre mon quart. Dites, bande de poireaux, là. Gardez-moi ma part de rhum, hein. Ça me réchauffera tout à l'heure.
Mais emporte-le dans ce thermos, Walker. C'est plus prudent.
Bon, merci, capitaine. Allez, bonne soirée à tous.
Attention, hein.
Attention. Pas de danger.
On tangue de plus en plus, la mer devient... heurté.
Ah, nous avons peu de toile dehors, Jelwyn.
Dieu vous bénisse pour ce rhum.
Ah, je savais ce que je
ah, il est fameux. Ah, j'en prendrai bien encore un peu, Tuck.
Tuck, qu'est-ce qui se passe?
Tu nous parles encore? Tous sur le pont, vite!
Sur le pont, tout était tranquille. La voilure ronronnait d'aise. Près de la barre, le fanal brûlait d'une belle flamme claire, éclairant la forme trapue du thermos abandonné. Mais personne n'était à la barre.
Walker! Walker!
Walker!
Walker!
La grande nuit silencieuse avait englouti pour toujours le pauvre Walker. Une aube sinistre, violette comme le rapide soir des savanes tropicales, suivit cette nuit funèbre. Les hommes, abrutis par une insomnie angoissée, regardaient la houle hachée. Le beaupré becquetait frénétiquement l'écume des crêtes. Un large trou étant apparu dans leur fortune carrée, Stevens ouvrit la soute au voile pour la remplacer. Friar Tuck sortit sa pommelle et s'apprêta pour un consensuel accommodage. Tous les mouvements étaient instinctifs, mécaniques et moroses. Turnip, sans avoir reçu d'ordre, monta au grand mât. Ballister le suivit machinalement des yeux jusqu'à la haute vergue. Puis la voilure le cacha à ses regards. Tout à coup...
Vite, répète ! Y a quelqu'un sur le mât ?
Comme ils avaient vu jaillir les corps des naufrageurs du Rats du bord de la falaise, Turnip pirouetta haut dans les airs et retomba au loin dans les flots.
Tac ! Vite, suis-moi ! Là, dans le mât ! Regarde,
Stevens, à moi ! La gueule à la mer ! Turnip est peut-être vivant !
Déjà, Les bras formidables du flamand faisaient glisser vers l'eau la frêle embarcation. Quand ils restèrent cloués de stupeur et d'épouvante, quelque chose de gris, de luisant et d'indistinct comme du verre entoura soudain la yole. Les chaînes sautèrent. Une force inconnue fit pencher le schooner sur bâbord. Une vague déferlante couvrit le pont et s'engouffra dans la soute à voile encore ouverte. Il n'y avait plus de traces de la petite embarcation de secours, aspirée par l'abîme. Jellwyn et Friar Tuck descendirent.
Que Dieu nous donne. Il n'y avait rien. Rien. Sauf ceci.
Jellwyn montra ses mains en frissonnant. Il avait trouvé la voilure et les manœuvres éclaboussées de sentiers. Très tard, Ballister et Jellwyn montèrent sur le pont, décidés à passer la nuit ensemble à la barre. Ils n'avaient rien à se dire. Jellwyn semblait endormi à la barre. Ballister, tout en allumant sa pipe, avait le regard perdu dans les ténèbres. Soudain, il resta figé par un spectacle inouï. Il venait de se pencher sur la lisse de bâbord.
Jellwyn, vous avez vu? Où est-ce que j'ai la perlue? Non, monsieur, vous avez bien vu. Mais pour l'amour de Jésus-Christ, n'en dites rien aux autres. Leur cerveau est déjà assez bien près de la folie comme ça.
Le fond de la mer venait d'être embrasé par une vaste lueur sanglante qui s'étendait sous le schooner. La clarté glissait sous la quille et illuminait par-dessous les voiles et les cordages. Ils avaient l'air d'être sur un bateau de théâtre Drury Lane, éclairé par une rampe invisible de mouvantes flammes de Bengale.
Phosphorescence. Regardez donc. L'eau devient transparente comme une boule de verre.
À une profondeur énorme, ils virent de grands massifs sombres aux formes irréelles. C'étaient des manoirs aux dômes gigantesques, aux tours immenses, des rues horriblement droites, bordées d'édifices frénétiques. Il leur semblait survoler, à une hauteur fantastique, une ville de furieuse industrie.
On dirait qu'il y a du mouvement.
Oui. En effet, cela grouillait d'une foule amorphe, d'êtres aux contours mal définis qui vaquaient à quelques besognes fiévreuses et infernales.
Attention !
Jellwyn venait de tirer brutalement Ballister par la ceinture. Du fond de l'abîme, un de ces êtres venait de surgir avec une vélocité incroyable. Et en moins d'une seconde, son ombre immense leur masqua la cité sous-marine. C'était comme un flot d'encre s'épandant instantanément autour d'eux. La quille reçut un coup violent. Dans la clarté écarlate, ils virent trois énormes tentacules d'une hauteur de trois mâts superposés battre hideusement l'espace. Et une formidable figure d'ombre, piquée de deux yeux d'ombre liquide, se hisser à la hauteur de la muraille de bâbord et leur jeter un regard effroyable. Cela dura moins d'une couple de secondes. Une houle brusque accourut par le travers.
Les barres à tribord, toutes !
Il était temps. Balancine rompue, le gui coupa l'air comme une hache et le grand mât craqua au point de se briser. Les drisses sautèrent avec des tons clairs de cordes de harpe. La formidable vision s'était brouillée et l'eau grondait, savonneuse. Tribord sous le vent, la lueur courut comme une frange brûlante sur les hautes crêtes galopantes. Puis s'évanouit.
Pauvre Walker. Pauvre Turnip.
Une matinée sans événement suivie. Le ciel resta couvert d'une nuée épaisse, immobile, d'une sale teinte ocreuse. Il faisait relativement froid. Vers midi, Ballister semble avoir, derrière la haute brume, une tache lumineuse qu'on aurait pu prendre pour le soleil. Il résolut de déterminer sa position. La mer était forte. Il tâchait de tenir l'horizon, mais chaque fois, des vagues rapides accouraient dans son champ de vision et l'horizon bondissait dans le ciel. Pourtant, il y arriva. tandis qu'il cherchait dans le miroir du sextant la réflexion de la tasse lumineuse, il vit que, devant elle, palpitait à grande hauteur une sorte de banderille laiteuse. Du fond des profondeurs nacrées du miroir, quelque chose d'indéfinissable jaillit vers lui.
Mais qu'est-ce que...
Ah ! Oh, mon Seigneur ! Prenez garde ! À moi !
Notre-Dame des Noyers, aidez-nous !
Quand Jellawyn arriva sur le pont, une vision d'horreur s'offrit à lui. Stevens se débattait avec furie comme au milieu d'une bulle d'argent, puis il s'écroula et resta sans mouvement. Les pommelles et les aiguilles à voile de Friar Tuck étaient éparpillées autour du grand mât. Lui n'y était plus. La lisse de bâbord dégoûtait de sang frais. Ballister était étendu sans connaissance contre le roof. Jellawyn, zigzagant comme un homme ivre, porta Stevens dans la cabine du capitaine. Sa figure de marin ruisselait de larmes. Il fit de même avec Ballister et lui mit des compresses fraîches sur le visage.
Oh. Dieu soit loué, il n'est pas mort, celui-là.
Où est Tuck ?
Nous ne le verrons plus jamais.
Pour l'amour du Seigneur, que nous arrive-t-il ?
Le corps de Stevens n'est plus qu'un horrible sac. Un amalgame d'eau brisée et d'organes en lambeaux. Sa constitution de géant fait qu'il respire encore. Mais autant dire qu'il est mort. Mort. Comme les autres.
Tout semble prouver que le danger est surtout sur le pont. Enfermons-nous dans ma cabine. Il y a du vat.
Ils laissèrent aller le psautier à sa fantaisie. Il ne portait qu'une voilure réduite et perdait presque autant en dérive qu'il ne marchait. Le soir vint. La respiration de Stevens était rocailleuse et pénible à entendre. Il fallait tout le temps essuyer la bave sanguinolente qui lui coulait de la bouche.
Je ne dormirai pas.
Moi non plus.
Ils avaient vissé et obturé les hublots malgré l'atmosphère étouffante. Le bateau roulait un peu. Soudain, vers 2 heures du matin.
On marche sur le pont.
J'y vais.
Non, à quoi bon ? Tenons-nous tranquilles. Je m'en doutais. Nous voilà entiers, on travaille pour nous. On largue les voiles.
Nom de Dieu !
Une marche tribord à mur sous ce vent-là. Ce sont des brutes, mais ce sont des marins. Cela prouve que nous avons une destination fixe et qu'ils veulent nous faire arriver quelque part.
Et que ce sont ni des démons, ni des fantômes, mais des êtres comme nous.
Pas tout à fait.
Mais je veux dire des êtres matériels, ne disposant que de forces naturelles.
Je n'en ai jamais douté.
Vers 5 heures du matin, une nouvelle manœuvre fut engagée qui fit de nouveau fortement rouler le schooner. Jellawyn dégagea un hublot. Une aube sale filtrait à travers les nuées compactes. Ils se hasardèrent précautionneusement sur le pont. Il était net et désert. Le bateau était à la cape. 2 jours calmes passèrent. Les manœuvres de nuit n'avaient pas repris, mais Jellawyn observa qu'ils étaient portés par un courant très rapide qui les menait vers ce qui aurait dû être le nord-ouest. Il parlait peu. Peut-être même ne pensait-il plus. Stevens respirait toujours, mais plus faiblement. Ballister était abruti par l'alcool car il buvait le whisky par pinte entière.
Je te casserai la gueule, maître d'école. Tes livres, tes maudits livres, je vais les jeter à la mer, page par page.
Qu'est-ce que vous dites ? Ballister, pour l'amour du ciel, répondez-moi, quel livre ?
Et doucement, je suis le capitaine !
Oh diable, des capitaines de votre espèce, où font-ils ces livres ?
Dans sa cabine, une malle pleine. Je les ai vus, ils sont en latin. Mais je connais pas ce jargon d'apothicaire.
Je le connais, moi. Pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé ?
Mais quelle importance ! Et puis lâchez-moi, je suis le capitaine ! Vous me devez le respect !
Une espèce d'ivrogne !
Ballister resta en compagnie de l'inerte et lamentable Stevens, qui fut son confident pendant les heures de beuverie qui suivirent. Puis, il dormit un peu.
Monsieur Ballister, le maître d'école ne vous a-t-il jamais parlé d'un objet en cristal ? Une boîte, peut-être ?
Et
Je n'étais pas son confident, vous savez.
Ah, si j'avais tenu ces livres avant toutes ces histoires.
Vous avez trouvé quelque chose ?
Des lueurs. Je cherche une piste s'ouvre. C'est probablement insensé, mais en tout cas inouï. Vous entendez ? Inouï.
Ballister ne put en tirer davantage. Jellabine courut se blottir dans la fameuse cabine où Ballister le laissa tranquille. Il ne revint que vers le soir pendant quelques minutes. Il venait remplir une lampe à pétrole et ne dit pas un mot. Ballister dormit jusqu'au lendemain fort tard. Dès son réveil, il se rendit dans la cabine du maître d'école. Jellabine n'y était plus.
Jellabine ! Jellabine ! Jellabine ! Jellabine !
Ballister était seul à bord, seul avec Stevens Moore. Seul. Affreusement seul. Ce fut seulement vers midi que Ballister retourna dans la cabine du maître d'école. Immédiatement, son regard tomba sur une feuille de papier épinglée bien en vue sur la cloison. C'était un mot écrit par Jellabine.
Monsieur Ballister, je me rends tout en haut du grand mât. Je dois voir quelque chose. Peut-être n'en reviendrai-je jamais. Dans ce cas, pardonnez ma mort qui vous laisse seul. Car Stevens aussi est un homme perdu, vous le savez. Mais ne tardez pas alors à faire ce que je vous dis. Brûlez tous ces livres. Faites-le à l'arrière du bateau, loin du grand mât. Et en ne vous approchant pas du bordage, je crois qu'on tâchera de vous en empêcher. Tout me le fait croire. Mais brûlez-les. Brûlez-les vite, au risque de mettre le feu au psautier. Cela vous sauvera-t-il ? Je n'ose l'espérer. Peut-être la Providence vous gardera-t-elle une chance. Que Dieu ait pitié de vous, Monsieur Ballister, comme de nous tous. Jellabine.
En rentrant dans le salon, tout bouleversé par cet extraordinaire adieu et maudissant son ivresse honteuse, Ballister n'entendit plus la respiration saccadée de Stevens. Il se pencha sur sa pauvre figure crispée. Lui aussi était parti. Il prit dans la chambre des machines deux bidons d'essence et, mu par je ne sais quel instinct providentiel, il fit marcher le moteur à toute allure. Sur le pont, près de la barre, il entassa les livres et les arrosa de naphte. Une haute flamme pâle monta.
Ballister !
Ballister fut saisi de stupeur et d'effroi. Dans le sillage du psautier de Mayence, à 20 brasses à l'arrière, nageait le maître d'école. Les flammes crépitaient. Les livres se transformaient rapidement en cendres.
Ballister ! Je te ferai riche ! Plus riche que tous les hommes de la terre réunis ! Je te ferai mourir, imbécile ! En des tortures affreuses qu'on ne connaît pas sur ta maudite planète. Je te ferai roi, Ballister, d'un royaume formidable. Ah, charogne, l'enfer te serait plus doux que ce que je te réserve.
Il nageait désespérément, mais gagnait peu sur le bateau lancé à toute vitesse. Tout à coup, le schooner fit quelques mouvements insolites, des coups sourds l'ébranlèrent. Ballister vit le flot monter vers lui. On attirait lentement l'embarcation vers les profondeurs de l'océan.
Ballister, écoute !
Le maître d'école se rapprochait avec vélocité. Sa figure était atrocement impassible, mais ses yeux brûlaient d'un éclat insoutenable. Soudain, au milieu de la masse de cendres ardentes, Ballister vit un parchemin se recroqueviller comme une peau et un objet étincelé.
La boîte de cristal. Jellabine avait raison. Elle était cachée dans un livre truqué.
Ah ! science, la plus grande science que tu vas détruire. Damné !
Ballister eut l'incroyable vision du maître d'école se dressant debout sur les lames, les mains tendues en avant, telles des griffes menaçantes. De chaque point de l'horizon lui arrivaient maintenant des tyroliennes aiguës. Les premières lames déferlèrent sur le pont.
Jelouin ! Jelouin ! J'ai trouvé la boîte de cristal ! Tu m'entends, Jelouin ?
Ballister bondit au milieu des flammes et d'un coup de talon fit éclater la boîte de cristal. Alors, il eut une sensation d'écroulement, une nausée horrible. L'eau, le ciel chavirèrent en un chaos fulgurant. Une clameur intense ébranla l'atmosphère. Il commençait une chute formidable dans les ténèbres.
C'est Briggs, le mousse du Northkeeper, qui découvrit le naufragé. Le gamin venait de chipper une pomme dans la kitchen et, blotti au milieu d'un amas de câbles levés, il s'apprêtait à savourer le produit de son larcin, quand il vit Ballister nager lourdement à quelques yards du bateau. Briggs se mit à hurler de toutes ses forces, car il voyait que le nageur allait être aspiré dans les remous de l'hélice. On le repêcha. Il était sans connaissance et semblait dormir. Ses mouvements natatoires avaient été absolument automatiques, comme on le remarque parfois chez les très forts nageurs de la mer. Il n'y avait pas de navire en vue et pas trace d'épave sur l'eau. Mais le mousse raconta qu'il lui avait semblé voir une forme de bateau transparent comme du verre, ce sont ses propres mots, se dresser par le travers de bâbord, puis disparaître dans les profondeurs. Cela lui valut du reste une paire de claques de la part de son capitaine pour lui apprendre à dire des choses aussi déraisonnables. On parvint à verser un peu de whisky dans la bouche du repêché. Le mécanicien Ross lui céda sa couchette et on le couvrit chaudement. Bientôt, Ballister passa sans transition de son évanouissement à un sommeil profond et fiévreux. On attendait avec curiosité son réveil quand l'événement le plus effroyable se produisit.
John Copeland, second à bord du Northkeeper, le matelot Jocks était au quart. Il n'y avait pas de lune. Seule une lueur brouillée et à la crête de la houle, une phosphorescence digne d'une ligne de brisant permettait d'y voir un peu.
Soudain.
John ! John, regarde!
Accroché bas dans les haubans, deux mains crispées, luisantes d'eau sortaient des ténèbres. Tout à coup, les mains lâchèrent prise et une forme sombre et humide sauta sur le pont. Les matelots virent alors, avec un ahurissement indescriptible, une sorte de clergyman en jaquette noire, ruisselant d'eau de mer, avec une petite tête aux yeux de braise ardente, les fixant.
Attention! Au secours! On le tue! À l'assassin! Arrêtez-le!
Bon Dieu, il va plonger! Vite! Tirez! Un créneau, il va nous échapper, mais tirez! Tirez! Là!
Les vagues le ramènent! Vite! Le grappin, nous allons le remonter à bord!
Je le tiens!
Il pèse rien, ce type. Il avait pourtant l'air costaud.
Je me demande à quoi il ressemble.
Seigneur.
Il y avait là une défroque vide. Deux mains artificielles et une tête en cire y étaient attachées. La balle avait troué la perruque et cassé le nez.
Je vous ai raconté mon aventure. Peut-être croyez-vous que je délire. Et pourtant, c'est la vérité vraie. Je vais mourir. Le maître d'école s'est vengé. Et je meurs parmi les hommes. Sur ma terre. Je suis heureux.
Le tragique mannequin fut remis au révérend Lemans, un digne ecclésiastique qui a parcouru le monde et sait bien des secrets de la mer et des terres sauvages. Il examina longuement ses restes.
Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir eu là-dedans? Car enfin, il y a eu quelque chose là-dedans. Ça vivait.
Ça pour sûr! Et fameusement encore, j'en ai toujours des courbatures.
Que trouvez-vous que cela sente?
Ben,
dirait l'acide formique.
Le phosphore, plutôt.
Ça sent le poulpe.
Au dernier jour de la création, c'est de la mer que Dieu fera sortir la bête d'épouvante. Ne devançons pas la destinée par une recherche impie.
Mais...
qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance?
Devant la parole sacrée, ils baissèrent la tête et renoncèrent à comprendre.